Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France et merci d'être avec nous sur Radio Campus 106.6. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Alors, je profite tout de suite de faire un petit rebond sur l'émission de la semaine dernière. Nous avons parlé en détail de séries qui débarquaient comme ça sur les plateformes de streaming. On en a raté une parce qu'elle est arrivée, l'information est arrivée juste après l'émission. C'est Amazon Studios qui va lui aussi attaquer un jeu vidéo en série et un jeu de vidéo extrêmement connu puisque c'est Fallout qui aura droit à sa petite série également. Alors pour rappeler, Fallout, ça se passe dans un univers post-apocalyptique, généralement futuriste, pour résumer brièvement.
Avec une petite ambiance des années 60-70 américaines.
Comme si les deux cultures temporelles se mixaient dans le jeu, c'était assez intéressant. On s'écoutera d'ailleurs des petits extraits des radios pour se plonger un peu dans les musiques des années 50, des années 60. Alors Dominique, toi apparemment tu n'étais pas un grand fan des Fallout. Est-ce que Reynald, toi il y en a un ou deux qui t'a marqué?
Je me souviens particulièrement du 3 parce que je l'avais joué sur la Xbox de mémoire, donc forcément j'avais eu les graphismes plein la tête pour l'époque, enfin la Xbox 360, mais après c'est vrai que j'ai un peu lâché pour d'autres types de jeux comme les Total War qui prennent un chronophage. C'est vrai qu'après la licence est un peu tombée en rade, donc je parle pas du 4 ou du 76, voilà. Et donc ouais non, surtout le 3.
Pour ma part, c'est vraiment le premier hein, moi qui m'a marqué. Après c'est vrai que il a évolué, peut-être pour un type de joueur qui ne nous correspond pas. Peut-être plus, ou juste parce que c'était développé en vue de faire de l'argent principalement.
Les dernières nouvelles qu'on avait du tout dernier Fallout, c'est plutôt en général pour s'en moquer, parce qu'il a plutôt tendance à défrayer la chronique avec les nombreux bugs, etc., qui sont associés au jeu Bethesda.
Et je vois c'est que Dom commence déjà à envoyer des... ouais, c'est bien, il est bien là, défrayer la chronique.
Voilà. Oui. Il y a, je suis sûr qu'il y a plein d'autres séries basées sur les jeux qui sont dans les tuyaux.
En même temps, un jeu Bethesda qui va prendre une licence, ça vous pouvait faire une petite criée d'alerte par rapport aux joueurs que nous sommes, quoi.
Alors on parle de Bethesda. Est-ce que vous y croyez encore vous à Bethesda ou est-ce que Elder Scrolls par exemple reste une licence qui vaut le coup?
Bah, si on enlève celui qui a été fait pour mobile, oui.
C'est vrai que c'était une très mauvaise expérience. Elder Scrolls bah, Blades.
Quand tu sais que Bethesda va sortir un jeu, tu sais que ça va être plein de bugs. Tu t'y attends.
Ouais, mais il y avait des bugs mignons si on reprend Morrowind.
Ouais.
Bon, malgré que les premiers niveaux.
Le test et tout, ouais, exact, pour les transformer et puis agrémenter le jeu après avec la communauté.
C'est peut-être fait exprès justement pour garder un attrait du jeu comme ça, à voir.
On les attend en tournant en tout cas.
Mais pas avec un Fallout. On va attaquer, comme d'habitude, l'agenda. Et on parle souvent d'Epic Games pour des jeux qui sont gratuits sur leur Epic Store. Mais il y a aussi un gros jeu qui fait beaucoup parler de lui. On essaye d'en parler le moins possible, c'est Fortnite. On n'expliquera pas cette fois-ci ce qu'est Fortnite, mais comme il y a beaucoup de problèmes avec la communauté, hein, Fortnite reste une communauté assez jeune, mine de rien, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines dérives. Donc les organisateurs, les créateurs de Fortnite ont décidé de mettre dans le jeu, on peut dire ça, des discussions en vue de sensibiliser la communauté de joueurs.
Bah, tiens qu'ils ont voulu participer au débat général en ce moment sur le racisme, plutôt contre le racisme, etc. Donc ils ont décidé, dans Fortnite, on a expliqué une fois qu'ils avaient fait ils font des événements en jeu, ils avaient fait des concerts, des choses comme ça, c'est pas de problème. Et là, ils ont décidé d'organiser un débat sur le racisme aux États-Unis. Donc ils ont invité des gens qui étaient bien calés sur le sujet, un débat très sérieux, des gens qui n'étaient pas forcément connus, surtout du public du jeu vidéo, hein, qui sont très très jeunes. Et ils espéraient que les joueurs allaient se poser entre deux parties comme ça et assister au débat tout calmement. Ça s'est pas vraiment passé comme ça.
Effectivement, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, un peu, puisque tout le monde s'est...
On aurait dû le transformer en bingo. Franchement, on aurait dû le transformer en bingo, ce truc-là.
Je vais jamais garder mon sérieux avec ce nouveau jeu. Ça va me faire beaucoup de montage, tout ça.
Pour expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc effectivement, le débat a lieu. Il y avait des grands écrans dans le jeu où les joueurs pouvaient assister, venir. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, pas beaucoup. Faut dire que quand tu viens sur un jeu vidéo pour te défouler après l'école, t'as pas envie forcément d'assister à un débat, surtout que ça n'avait pas l'air très, très, très passionnant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des joueurs, principalement, qui se sont amusés à comment dire, dans le jeu Fortnite, il y a des petits éléments de jeu, il y a une machine qui permet de lancer des tomates. C'est un lanceur automatique, un distributeur automatique de tomates. Et il y en a un qui s'amuse à mettre ça dans l'écran. Et les autres joueurs, bah, comme ils s'ennuyaient, en fait, ils sont pris des tomates, ils ont commencé à la lancer sur l'écran. Ça veut pas dire qu'ils étaient pour le racisme ou contre les bacs, etc. C'est juste qu'elle les interceptait pas, ils s'ennuyaient, quoi. Ils étaient juste venus pour s'amuser. Alors, ça n'a pas eu d'impact sur le débat lui-même. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des articles dans des journaux, dans des médias qui sont pas spécialisés dans le jeu vidéo, qui savent pas forcément ce qu'est Fortnite, qui ont vu ça. Ils ont juste vu la partie où des jeunes lancent des tomates sur un débat contre le racisme. Et donc, ils en ont déduit que les jeunes joueurs de Fortnite sont des racistes, peut-être. Enfin, en gros, ils n'ont pas du tout expliqué. Ils ont complètement sorti l'information du contexte. Et c'est là le problème.
Alors, est-ce qu'il y a eu également des lancers de tomates lorsqu'il y avait des lives musicaux?
Peut-être, sûrement.
Mais ça n'a pas fait autant de bruit.
Bah là, tu as le souci. Tu en as deux. Tu as le premier où, justement, aux États-Unis, ils baignent dedans depuis des semaines et des semaines. Et là, forcément, tu as la personne qui pour jouer se retrouve devant un écran où il est obligé de réfléchir, se dire mais attends, moi je subis ça déjà sur tous les autres réseaux sociaux, la télé et compagnie.
Je suis pas venu là pour regarder les infos.
Voilà, et j'ai pas envie qu'on me remette ça dans la tête, et donc forcément je pète un câble. Et après, t'as aussi le fait qu'il parle que c'est un débat, mais non, c'est juste tu te poses devant ton cul devant un écran et tu écoutes et tu regardes. Limite, ils auraient fait ça en podcast pendant que tu joues, ça aurait été pareil.
Il y a 4-5 personnes qui discutaient entre elles.
Voilà. Et tu pouvais pas interagir, tu vois, tu pouvais pas vraiment prendre
même pas des youtubeurs ou des streamers, ça aurait pu être éventuellement, ça aurait pu attirer du public, mais c'était même pas le cas. Donc il y avait eu la même chose, il y avait eu un débat, c'était au niveau des présidentielles en France, ils avaient retransmis, c'est ça, les questions aux candidats, si j'ai pas de bêtises, sur Twitch. Et il y a eu des animateurs, et cette fois des animateurs, enfin des youtubeurs, qui avaient animé le débat pendant, je crois que ça avait duré 24 heures non-stop. Et toute la journée, il y a eu des gens qui étaient venus sur Twitch par curiosité, mais peut-être aussi qui sont restés par intérêt. Et par contre, c'était un peu plus dynamique façon de parler, quoi, et intéressant, puisque ça parlait de sujets concrets qui touchaient les gens, ils pouvaient poser des questions, réagir, etc.
Mais en tout cas, tu parles de Twitch, mais Twitch, c'est une plateforme où justement qui est un peu dédiée à ça. Tu peux pas rentrer dans un jeu. Imagine, on se fait une partie de Rome Total War après la mission. On se retrouve sur la carte de campagne et il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui dit allez, on va faire un débat sur l'économie mondiale. On va pendant une heure. Tu vas pas jouer. Tu vas arrêter le jeu. Tu vas passer à autre chose. Ou alors je vais lancer des lances. Prendre des lances de mes piquets, je vais les envoyer, enfin, tu vois, je vais m'amuser le temps que ça se passe, quoi. Et ça a exactement le même effet que Fortnite a eu.
Ça partait d'une bonne intention.
Je pense que ça aurait été pire s'ils avaient pu exprimer leurs idées.
Après, on ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé, comme ils essayent de créer ce qu'on appelle de l'entertainment sur leur jeu, leur serveur. Ils avaient fait des événements pour les films de Star Wars, ils font, comme on avait dit, des concerts. Tu ne peux pas leur reprocher de créer une communauté sur leur serveur. Comme on en revient toujours après, c'est que leur serveur n'est pas un serveur Twitch où il y a une communauté qui va se poser et discuter avant de jouer. Les lobbies ou les hubs pour en attendre une partie, ça se fait automatiquement.
C'est pas encore prêt, mais c'est vrai qu'un jeu comme Fortnite, c'est devenu aussi un média social, un réseau social presque comme les autres. Et on en parlait aussi il y a quelques semaines dans l'émission. C'est aussi une nouvelle chaîne de télé. Enfin,
voilà, quelquefois on fait plus que jouer. On va rencontrer les amis, on va se réunir. Alors,
affaire à suivre.
Bien joué. Il n'y a pas que ce lancer de tomates qui a posé des problèmes dans Fortnite. Il y a également des véhicules qui ont été incendiés. Pas n'importe quel véhicule qui ont été maltraités dans le jeu, puisque Fortnite a décidé de retirer tous les véhicules de police. Ça découle encore de l'événement Black Lives Matter, puisqu'aux États-Unis, la police est quand même assez ciblée pour ces violences. Du coup, les gens ont décidé de se lâcher dans Fortnite. Alors, est-ce qu'on risque d'enlever la majorité des fonctionnalités de Fortnite ?
Et encore, là, on parle de Fortnite, mais imagine dans un jeu comme GTA, où il y a des jeux où dans GTA, si tu commences à enlever les voitures de police, je ne sais quoi, Ça va être bizarre.
Mais en même temps, en plus GTA, ça serait vraiment un défouloir pour la police, parce que tu ferais exprès de t'avoir une ou deux étoiles pour dire bon maintenant je les attends, hein, on va s'en occuper de vive voix. Mais après, Fortnite, enfin, c'est un peu le but aussi de récupérer des ressources et de fracasser tout ce que t'as autour de toi, pour ne serait-ce que d'avoir des matériaux pour pouvoir construire après tes tours où tu vas te positionner pour tirer sur les adversaires. Alors que qui retire un skin de voiture de police, bah c'est pas grave, ils prennent leurs ressources sur les véhicules. Voilà, c'est juste ça en fait. Mais au moins, c'était le geste était symbolique pour ça.
Je vois que Epic Games est très sensible quand même à sa communauté de joueurs. Ils connaissent quels sont les joueurs à qui ils ont affaire. Et il y a une sorte de sens de responsabilité de leur part, je trouve. Ce qu'on voit moins sur du GTA, qui a toujours plus ou moins assumé, voilà, dépasser un peu les bornes à certains moments.
C'est une communauté de joueurs plus adultes, hein, parce que GTA, c'est censé être interdit au moins de 18 ans, c'est ça? Au moins de 16, je ne sais plus.
Et puis le fait qu'il soit à chaque sortie d'un nouvel opus, qu'il soit censuré et interdit dans différents États américains, ça leur fait de la pub. Là, Fortnite, ils ont le vent en poupe, justement, ils font à tout prix qu'ils aient le maximum de joueurs. Donc là, ils vont dans le sens du vent.
Alors, petite question, on va faire un petit trivia quiz. Quel est l'âge limite de Fortnite?
Le minimum.
Ah, oui, à partir de quel âge peut-on jouer? Ah non, il y a un...
Fortnite
est déconseillé.
Ah, ça doit être 13 ans, non?
Ouais, ça doit être 11 ou 13 ans, il y a un âge légal pour les jeux, mais c'est
vraiment
symbolique.
Comme pour les... Ça doit être comme pour les forums ou un truc comme ça doit être 13-14 ans.
C'est 12 ans.
12 ans.
12 ans pour notamment le fait qu'il y a de fréquentes scènes de violence modérées, alors qui doit être atténué par le fait qu'il y a un peu de cartoon et qu'il n'y a pas d'explosion de sang dans le jeu. Mais bon, la base est là, on est sur un FPS, donc on
c'est la même chose que ce dont on parlait la dernière fois avec les Looney Tunes, les fameux dessins animés qui vont être faits, parce que voilà, les fameux vieux dessins animés classiques où tu faisais exposer un personnage avec de la dynamite, même s'il revenait 10 secondes plus tard qu'il était en pleine forme, avec le visage un peu noir, bon ça a déjà aussi ses limites, bah maintenant il n'y a plus de dynamite, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de fusil dans les dessins animés.
Mais alors, est-ce que le fait de mettre ça en cartoon à Fortnite, est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que ça risque de plus fonctionner demain?
Non, maintenant Fortnite c'est du contenu qui améliore la communauté, donc que tu changes quoi que ce soit sur le côté graphisme, ça fera rien.
Voilà, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont en dessous des 12 ans. Hein. Certains pourront confirmer en écoutant la radio. Allez, je vous propose de passer un peu de musique, on parlait tout à l'heure de Fallout, et je vous propose d'explorer un peu parmi les plusieurs jeux, puisqu'il y avait, un peu comme dans GTA, des radios qui étaient disponibles, alors forcément qui plongeaient sur des musiques assez anciennes des années 50-60, voire en dessous. Je vous propose d'écouter une musique de la première bande-annonce de Fallout 1. La chanson s'appelle Maybe, elle a été créée en 1940 par un groupe qui s'appelle The Ink Spots.
Of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were near. Then maybe you'll ask me to come back again, and maybe I'll say maybe. Maybe you'll think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue, then what will I do? Maybe you'll sit inside, wishing that I were near. Then maybe you'll ask me to come back again, and maybe I'll say maybe.
Voilà, c'était The Ink Spot sur la bande-annonce de Fallout avec une chanson qui s'appelle Maybe. Je vous propose de continuer ce sommaire de l'émission Heureusement en France par une news qui est un peu dans l'agenda, puisque on a vu ça cette semaine, c'est Spotify qui a lancé une nouvelle série audio originale et qui s'appelle Sarah.
Ah, c'est marrant, Sarah, parce que tu changes le A en I et ça donne autre chose. Ça tombe bien parce que c'est une série qui est adaptée d'une série américaine, si j'ai pas de bêtises, qui s'appelait Sandra. Et en fait, ça raconte les histoires d'un assistant personnel.
Un vrai ou un assistant personnel, un peu comme les Siri ou Alexa?
Ah, on va pas spoiler, mais en fait, effectivement, c'est le sujet. Donc, il y a une jeune femme qui s'appelle Hélène, qui est interprétée par Virginie Efira, qui trouve un job dans une société qui développe justement Sarah, le fameux assistant virtuel qui est à la mode. Et on va s'apercevoir qu'en fait, derrière, il y a des personnes. On va pas spoiler les épisodes. Il y a que 7 épisodes, donc c'est sur Spotify. Hein. On mettra l'adresse sur le site de l'émission. On va découvrir petit à petit ce qui se cache derrière ces fameux assistants personnels. Donc, c'est largement inspiré de la réalité, on va dire.
Voilà, c'était créé par Matthew Derby et Kevin Moffat. Et est-ce que vous écoutez, vous, souvent des séries audio comme ça? Puisque ici, on a l'impression d'écouter un épisode de série télé, presque, sans voir l'image.
Ah oui, mais en plus, c'est des épisodes qui durent entre 15 et des fois 25 minutes, donc... C'est vraiment comme si c'était une série.
C'est le genre de choses que tu peux faire dans les transports en commun ou les gens qui écoutent c'est comme des audiobooks en courant ou je ne sais quoi, en faisant leur sport. Et la série originale a été aussi adaptée dans d'autres pays. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est que... Alors déjà dans la série américaine, il y avait des acteurs très connus, comme par exemple Ethan Hawke. Les adaptations dans les autres pays, à chaque fois, ils essayent de prendre aussi des acteurs connus. Donc en France, c'est des acteurs belges, mais Virginie Efira ou Stéphane de Groot, par exemple. Et dans tous les pays, même au Brésil, où cette fois elle s'appelle pas Sarah, elle s'appelle Sonia. En plus, ils changent le prénom à chaque fois. Ils prennent aussi des acteurs connus. Comme quoi, les acteurs, le cinéma, c'est pas assez. Les séries, ils sont intéressés aussi. Ils font même de la série audio. Donc, ça vraiment le vent en poupe.
Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil, puisqu'on avait reçu parmi nous les créateurs de l'univers d'Arakan, puisqu'il y a encore de l'activité chez eux avec leur audiofilm. Donc, si vous aimez bien, soit les séries, soit carrément les films, n'hésitez pas. Là, c'est Sarah sur Spotify. On a Arakan sur leur site avec quelques extraits d'épisodes gratuits, j'en dis pas plus. Et je vous propose d'écouter un petit preview, la bande-annonce.
Oui, comme les vraies séries, même les séries audio ont leur bande-annonce, très fort.
Le 7 juillet, Spotify et Gimlet Media présentent Sarah.
Bienvenue à Télédynamique Orbitale, que puis-je pour vous ?
Bonjour, je m'appelle Hélène Pereira. Je viens d'être embauchée, on m'a dit de me présenter à l'accueil.
Hélène est une jeune femme qui travaille pour Sarah, l'assistant virtuel le plus intuitif du monde.
Être une Sarah, c'est comme avoir un super pouvoir, hein ? Vous vous rendez compte ? Vous ne connaissez pas vos clients, vous ne les avez jamais vus, et pourtant vous savez que vous pouvez les aider. Vous avez accès à leurs habitudes de consommation, leurs recherches sur Internet, tous les grands événements de leur vie, vous connaissez même leur rythme cardiaque. Ouais, tandis qu'eux, ils savent même pas qu'ils ont un cœur.
Sarah vous plonge au cœur de la plus humaine des machines.
Pouvez-vous me décrire votre problème ?
On est devant un oiseau qui a une aile coincée dans la grille d'une plaque d'égout et... Attends, qu'est-ce que tu fais ?
Ce que j'aurais dû faire il y a 10 minutes.
Repose cette pierre. Non, arrête !
J'abrège ces souffrances.
Arrêtez. Nathalie, Mathias vous a-t-il demandé en mariage ?
Non, pas encore.
Tant mieux, ne l'épousez pas. Dites-vous adieu et ne vous renvoyez plus jamais.
Sarah, la nouvelle série audio Spotify.
Voilà, c'était l'audio-série Sarah, réalisée par Nicolas Tarin, avec, comme tu le disais Dominique, les voix de Virginie Efira Natou, Stéphane De Groot, Mélanie Bernier, Julien Pestel et Bruno Sanchez. On va enchaîner, on reste dans l'agenda et on va partir sur la Comic-Con. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui, en ce moment, sont annulés et on espère revoir ces événements qu'on a pu voir. La Comic-Con, c'est un peu dans tous les pays. Hein. Là, on a la nôtre, notamment à Paris.
La référence, c'est vraiment la Comic-Con de San Diego qui a lieu tous les ans depuis des années et des années. C'est le rassemblement de tous les... Si vous avez regardé la série Big Bang Theory, au moins chaque année, il y a un épisode où ils essayent d'aller à la Comic-Con, en costume ou pas d'ailleurs. Et des fois, ils y arrivent ou pas. C'est vraiment un événement incontournable pour tous les fans de comics, mais c'est pas que les comics papier, c'est aussi tout ce qui concerne la science-fiction au cinéma, en série télé, etc. C'est vraiment rassemblant un contournable. Mais cette année, effectivement, c'est pas possible de le faire en vrai. Donc, la Comic-Con a décidé de se lancer, comme beaucoup de festivals, en ligne. Donc, ça sera du 22 au 26 juillet. Et on vient juste d'avoir les premières infos du planning pour le premier jour, donc le jour du 22. Et alors, c'est le planning des débats. Hein. On ne sait pas encore s'il y aura des invités. Bon, pour faire des dédicaces ou des selfies avec tes vedettes préférées, ça va être un petit peu difficile de le faire en ligne, quoique.
Alors, la semaine dernière, on parlait des vidéos personnalisées. Ça serait éventuellement possible de mettre une photo booth. Les gens ont 15 secondes avec la star qui est dans le salon, mais eux non. Ça pourrait être sympa.
Alors pour l'instant on a juste le programme. Et en plus au moment où je regarde, donc pendant l'émission, ils sont en train d'ajouter les programmes des autres jours, parce que maintenant on a le programme du deuxième jour. Donc c'est les débats des conférences sur, par exemple, les comics à l'école, comment utiliser les comics pour dans l'éducation. Il y a plein de débats comme ça. Donc il y a un débat, par exemple, Watchmen et la cruauté des masques. Il y a plein de débats, plus ou moins philosophiques ou techniques, sur la création des comics, l'utilisation des comics dans la vie courante. Donc c'est sur le site comic-con.org. Il y a déjà le programme petit à petit qui se met à jour. Et on pourra suivre ça sur le site et sur YouTube, principalement, suivre les débats.
Alors, je suis en train de regarder les premiers spéciales guests qui sont lancés. J'en connais aucun. Donc, on attendra. C'est vrai que d'habitude, les Comic-Con, ça permet aussi d'inviter les grandes stars de Game of Thrones, The Walking Dead, exactement, qui doivent attirer énormément de personnes. Ici, pour l'instant, je ne vois pas encore de grosses têtes d'affiches.
Ah, mais
il y a
place,
plusieurs.
Il y a plein de pages. Même si ça se met en place, je veux dire, les vedettes ne seront pas réunies dans un même endroit, je pense pas. Donc ça sera forcément des discussions en ligne, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'organiser petit à petit, même au dernier moment.
Allez, vu qu'on est sur Radio Campus, on va parler un peu de journalisme et de façon de présenter les sujets. C'est quelque chose qu'on avait aperçu il y a déjà plusieurs semaines et qu'on a essayé, même si certains n'ont pas réussi à garder leur sérieux, d'évoquer des mots-clés depuis l'émission. C'est pour ça que vous avez pu entendre...
Bon, avoir le vent en poupe, c'est dans les tuyaux, mettre le feu aux poudres, toutes affaires à suivre, tout ça,
ouais,
c'est ce qu'on appelle
ce
des
qu'on a dit, ouais.
C'est ce qu'on appelle des clichés. Il y en a plein, des choses comme de voir le bout du tunnel ou des invités triés sur le volet.
On défrayait la chronique, tout.
La cerise sur le gâteau, toutes ces expressions-là. Et il y a un journaliste qui s'appelle Yann Guégan qui s'est amusé depuis une dizaine d'années. Il travaillait à cette époque-là pour Rue 89 et il sortait de l'école de journalisme où on leur apprend normalement à éviter ce genre de clichés, ce genre de facilité. Et il s'était amusé à faire la chasse aux clichés. Il avait même lancé un compte Twitter qui s'appelle Alerte Cliché, qui est plus actif depuis quelques années, mais que j'avais suivi, qui était énorme. Et c'était un bot. Il avait programmé un bot qui repérait automatiquement dans toutes les infos qu'il rencontrait dans la presse, et a repéré tous ces clichés et allait balancer sur Twitter. D'ailleurs, il a un blog qui s'appelle danmonlabo.com où il explique tout ça, comment il fait la chasse aux clichés, comment il l'analyse. Il a un bot qui analyse automatiquement tous les jours sur Google News tous les médias qui utilisent ces fameux clichés. Alors, c'est pas un crime d'utiliser les clichés, c'est une facilité, à condition de pas en abuser, en fait. Le problème, c'est pas de les utiliser, parce que des fois, effectivement, une expression comme ça, c'est très imagé et ça permet au public de comprendre tout de suite de quoi on parle et de bien situer. Surtout qu'en plus, il y a une particularité. Lui, il étudie vraiment ça. Il pourrait faire une thèse, je pense, sur les clichés des journalistes. Il s'est aperçu que depuis des années et des années, il a même consulté des spécialistes de la langue, etc. Et il s'est aperçu qu'en fait, ils ont une particularité, ces clichés, c'est qu'ils ne changent jamais. Par exemple, on dit toujours la cerise sur le gâteau. Tu n'entendras jamais quelqu'un dire il y a des cerises sur les gâteaux ou des cerises sur un gâteau, etc. Ça sera toujours la cerise. Les Français ne bougent pas depuis des dizaines d'années et c'est assez intéressant. Et il a repéré quelques médias qui ont tendance à en utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se demande même si c'est pas des faux journalistes. Il y a des médias où il y a pratiquement dans chaque phrase, t'as un cliché.
Alors, le souci, tu dis ça change jamais, mais si tu changes légèrement ce petit dicton ou cette phrase qui est assez connue, ça peut sembler comme une erreur.
Les gens vont, tu vas t'en apercevoir, parce qu'effectivement, pendant l'émission, si vous avez fait un peu attention, effectivement, on s'est amusé à placer quelques clichés de phrases toutes faites. Ça passe dans le langage parce qu'on les entend tellement, en fait, c'est un peu comme des virgules ou des ponctuations. Mais si tu commences à changer ou à parler différemment, là, ça risque peut-être de dénoter et paradoxalement de faire croire que t'es moins sérieux dans ton travail.
Par exemple, si je dis ça met le feu au charbon. Ça sonne faux du coup, puisque
on pense tous que tu prépares un bon barbecue, mais après
on voit pas trop ce que ça veut dire, quoi. Tandis que mettre le feu aux poudres, on sent tout de suite, on sent l'urgence, parce qu'effectivement ça nous rappelle peut-être tous les autres événements auxquels cette expression est rattachée. C'est vraiment
tu risques de te faire chambrer parce que tu auras utilisé une vieille expression et que pour X raison t'as un public jeune autour de toi, mais tout le monde l'aura compris, même les jeunes.
Exactement.
Puis je pense que c'est rentré dans une sorte de tic de langage du quotidien.
On est presque programmé en tant qu'auditeur et spectateur, on est programmé à réagir à ce genre de stimuli, on va dire.
Et on s'en aperçoit, hein, puisque quand je réécoute nos premiers podcasts ou qu'on écoute certaines fois les émissions, c'est vrai que même nous, on utilise un peu ces termes sans le vouloir.
Oui, parce que ça nous rassure un peu, parce que même si on n'est pas en direct ou si on fait du direct à la radio, c'est pas qu'on a le track, mais on n'est pas forcément à l'aise. Et le fait d'utiliser nous-mêmes des petites expressions, ça fait un peu comme des tics, un petit peu, ça nous rassure. On est bien chez nous, quoi. On est bien assis dans notre chaise, mais on est bien aussi assis dans nos expressions, dans nos idées toutes faites, mais on a nos petites habitudes, quoi.
Puis ça te permet de réfléchir à ce que tu vas dire juste après.
Et puis surtout aussi de te faire comprendre et de pas non plus trop chercher des détails à expliquer aux personnes qui t'écoutent. Mais là, tu es sûr que tu as véhiculé le message que tu voulais.
Alors, c'est pas la seule pratique qui est comme ça dénotée dans le journalisme. Ah, mais aussi la façon dont on fait le reportage avec sa voix, la façon dont on parle.
C'est ce qu'on appelle la fameuse voix M6 ou la voix capitale, parce que je pense que c'est de cette émission-là où c'est vraiment apparu, je pense.
Ou 90 enquêtes, enfin toutes les...
tous les journaux, voilà. Tous les reportages, tout, à part sur Radio Campus, bien sûr.
Et maintenant, c'est trop tard.
Et ça a dû forcément être bien plébiscité par Bernard de la Villardière. Donc, vous voyez un peu les émissions auxquelles on fait référence. Et ça a été extrêmement bien remarqué par une voix du journalisme, hein, puisqu'elle a fait ses études dans le journalisme. Elle a même travaillé pour des chaînes de télévision. Et c'est le 28 avril qu'on a vu une petite vidéo comme ça apparaître sur TikTok de Anne Godefroy.
Elle était assistante de production chez RTL2.
Anne Godefroy.
Elle a aussi travaillé pour les journaux de France 2, etc., où elle faisait des reportages, elle faisait des voix off, etc. Et puis, t'as qu'à passer un extrait, on va tout de suite comprendre de quoi ça parle.
Je vous avoue un truc, j'arrive pas à contrôler ma voix off de journaliste. Qui commente toutes les images de cette manière. C'est hyper chiant parce que moi, voilà, je parle et tout à coup, c'est le drame. Dans la vidéo, il y a même des gens qui critiquent ma coiffure, il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Mais vont-ils réouvrir le 11 mai, comme la totalité des commerçants? Du coup, en attendant, je reste confinée et puis je regarde des films. Hier, c'était Terminator 3, quand la fiction prend le pas sur la réalité. Ça me fatigue, la fatigue. Un des symptômes du Covid-19. Qui sévit actuellement dans le monde entier.
Voilà, c'est vrai que c'est choquant. Et est-ce que vous arrivez, vous, à parler de cette façon? Je pense que, comme elle le dit, il y a vraiment un travail. Ça s'apprend. Alors, ceux qui ont aussi fait de la parodie de ça, c'est le Groland, qui, dans leur voix off de documentaire, qui prenait vraiment tous les tics des journalistes. Et ça, c'était extrêmement bien fait également. Mais c'est impressionnant de voir, puisqu'elle raconte, hein, on n'a pas passé toute l'interview, mais elle raconte que elle n'avait pas pu faire ce type de voix, enfin, elle n'avait pas pu présenter ses propres reportages, puisqu'elle n'était pas encore formatée, sa voix ne sonnait pas.
Ses patrons lui demandaient de parler comme ça, enfin, c'était presque un ordre, c'était presque obligé, parce que tout le monde le fait, et comme ça marche, ben, il faut continuer à le faire.
Et là, il y a autre chose, cette fois-ci, c'est pas une vidéo TikTok, c'est carrément un documentaire qui a été réalisé par Victoire Tuaillon, et qui reprend, on parlait de Groland tout à l'heure, la fameuse phrase « Et là, c'est le drame ». Et quel beau nom d'émission pour un podcast, je trouve. On pourrait plus le prendre.
C'est pas mal. Donc effectivement, c'est disponible sur... Ça dure 9 minutes, c'est ça, c'est un petit reportage audio. Et c'est disponible sur Arte Radio. Il suffit de chercher « Et là, c'est le drame » sur Arte. Et on mettra le lien, bien sûr, dans les liens de l'émission.
Et lors de cet épisode, il parle notamment de cet accent très prononcé des journalistes qui se ressemblent énormément. Et je trouve que ça va, à Radio Campus, on se porte bien avec... Chacun vient avec son naturel, je trouve.
On n'a pas l'impression d'entendre le même son de cloche partout.
C'est bien. Je vois que tu continues.
Je barre à chaque fois que je place une expression, je la barre sur mon papier.
Je vois que tu continues à monter au créneau. Tu fais de la résistance. C'est très bien. Mais on fait le clap de fin sur ce sujet de journalisme. Et je vous propose d'écouter un peu de musique avec, non pas Fallout 1 cette fois-ci, mais Fallout 2. Puisque dans chaque Fallout, il y avait comme ça des petites émissions de radio. Dans ce Fallout 2, je vous propose de partir en 1951 avec Louis Armstrong et sa chanson A Kiss to Build a Dream On.
Give me a kiss to build a dream on. In my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the pill I dream of.
Louis Armstrong avec A Kiss to Build a Dream On, qui est sur la soundtrack de Fallout 2. Je pense que Fallout 2, pour le coup, on n'y a pas... on n'y a pas joué énormément. Hein. Je fais rapidement le tour de la table, mais je pense qu'on a plus joué au 1 ou aux versions 3D qui sont sorties par la suite.
Je jouais à des vrais jeux, moi, à l'époque.
Je me rappelle plus trop du 2 pour te dire à quel point il m'a pas marqué.
Allez, vu que tout à l'heure on parlait d'émissions, on parlait de podcasts, je vous propose de continuer à faire découvrir comme ça des émissions qui nous ont marquées et qui ne sont pas forcément sur Radio Campus. Cette fois-ci, on va parler d'une chaîne qui parle de l'électronique numérique.
Alors, en fait, c'est une chaîne que j'ai découvert un petit peu par hasard ces jours-ci. C'est une chaîne qui a été créée par un ingénieur en microélectronique, c'est passionnant, qui s'appelle Stéphane Marty, et qui aime bien parler de sa passion, et puis surtout ce qu'on appelle débunker, en bon français, des sujets un petit peu d'actualité. Et je suis tombé dessus parce qu'il avait fait une vidéo. Alors, il a une trentaine ou une quarantaine de vidéos sur sa chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Deus Ex Silicium, très joli nom, et il s'amuse à démonter des machines, des consoles, à réparer des vieilles machines et plein d'appareils à la mode comme ça. Je suis tombé dessus parce que par hasard, récemment, il a fait une vidéo sur le fameux compteur Linky que tout le monde a ou pas chez lui. Et il a récupéré un compteur Linky et il l'a démonté en vidéo. Il a expliqué que tous les composants. Alors, je ne comprends pas la moitié de ce qu'il raconte, mais c'est passionnant. Surtout que contrairement à beaucoup de youtubeurs qui font des sujets, je sais pas, sur la cuisine ou même un youtubeur classique, normal, on va dire, qui cherchera à faire de l'argent en parlant de ça, il mettrait plein d'effets spéciaux, il mettrait des musiques bizarres avec des plans. Non, lui, il est dans sa cave, il a plein de matériel de mesure et il fait ça très calme avec une voix très monocorde. C'est super bien documenté. Il met des schémas quand il faut. C'est assez passionnant, en fait.
Alors, pour faire de l'argent, il aurait nommé sa vidéo « Comment tricher avec votre compteur Linky ».
Exactement.
C'est pas ce qu'il a fait.
Non, le truc, c'est que je connaissais cette chaîne depuis quelques temps, et en fait, là, il l'a fait sur la vidéo sur compteur Linky. C'est une vidéo qui date d'il y a un an, et effectivement, elle est revenue sur YouTube en tête d'affiche. On va savoir pourquoi, mais je l'ai revu
parce
aussi.
Il y a eu quelques compteurs Linky qui ont eu des problèmes il y a quelques mois, quelques semaines, donc les gens cherchent toujours des infos sur ces fameux compteurs.
Et il y a un an, il avait fait justement une première vidéo de 3 minutes pour expliquer pourquoi il allait faire cette vidéo, que lui, il était ni pour ni contre, etc. Il allait juste faire factuellement les décortiquer ce qu'il y avait dedans, etc.
Ça, c'est important parce qu'il reste complètement neutre du bout à l'autre de ces vidéos.
Et après, il te fait une vidéo qui est courte, entre guillemets, qui est quand même une trentaine de minutes, où il te t'explique à chaque fois qu'il démonte à quoi ça sert, à quoi ça correspond, ce que ça devrait avoir. Parce que normalement, il devrait ressortir ou rentrer comme courant, comme information, etc.
Il montre un composant, il donne la référence et il met en surimpression le schéma du composant. Donc, si tu t'y connais, tu peux aller chercher, tu peux vérifier qu'il dit pas des bêtises. On voit qu'il invente pas, quoi. Il connaît bien son sujet.
Et pour être sûr que ça reste digeste pour des néophytes comme nous qui sommes pas du tout de ses compétences métiers, il avait aussi fait à côté une autre vidéo où là il avait complètement fait le côté hardcore des mesures avec son oscilloscope, enfin c'est plein de trucs pour ceux qui sont vraiment plus qui ont plus de compétences, quoi. Donc là tu apprends déjà un peu plus ce que c'est un compteur Linky, à quoi il sert et surtout comment il est géré par rapport à Enedis et nous.
Parmi les vidéos qu'il a faites, celles qui m'ont le plus alors j'ai pas tout regardé hein, parce qu'il y en a qui m'intéressent pas forcément, mais par exemple il y a une vidéo, c'est l'épisode 27, pour en finir avec les gadgets anti-ondes. Il a trouvé que sur certains sites, et c'est le cas effectivement, on vend des gadgets contre peut-être pas la 5G, mais contre les ondes Wi-Fi, toutes les ondes qui nous entourent. Et il y a des gens qui vendent des gadgets souvent très très chers, et il explique comment ça marche, ou plutôt comment ça marche pas. Hein, on va spoiler un peu la fin. Et il a même des discussions avec. Il a demandé par exemple, il est tombé sur un site commercial qui vend. Il les a contactés. Il leur a demandé s'il pouvait, il a dit qu'il allait faire une analyse, il a demandé s'il pouvait envoyer du matériel, etc. Et il explique tout l'échange qu'il a eu avec le vendeur, mais aussi les gens qui fabriquent, pour montrer à quel point c'est un peu bidon, et c'est assez passionnant, quoi. Il a une autre vidéo qui est passionnante, que tout le monde devrait regarder ou montrer à ses enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il n'y a pas longtemps, c'est en France, mais ça aurait dû arriver dans d'autres pays. Il y a une jeune fille qui est morte parce qu'elle était non, elle prenait son bain, elle avait son téléphone, et son téléphone portable était branché sur la prise, donc elle utilisait son téléphone qui était en train de se charger, branché sur la prise, et malheureusement elle est morte. Et il explique dans une vidéo qui fait une demi-heure aussi, il explique tout comment marchent les chargeurs. Il a une dizaine de chargeurs qu'il a récupérés. Il prend des mesures. Il mesure s'il génère de l'onde. Enfin, il prend son temps. Il explique tout. Il a même fait un petit schéma. C'est les seuls effets spéciaux qui s'autorisent. Il a fait un petit schéma où on voit une jeune femme dans un bain et puis on voit le courant qui passe. On voit pourquoi le simple fait de tenir ton téléphone, il y a déjà du courant qui passe. Tu n'as même pas besoin. À la limite, t'es moins en danger si ton téléphone tombe dans l'eau pendant que tu l'utilises que si tu le tiens à la main alors que toi t'es dans l'eau. Enfin, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment super intéressant toutes ces émissions.
Ouais, j'avoue que de mon côté, la dernière que j'ai vue de lui, c'était une mission sur le boîtier Powerbox 3 qui était une réponse un ajout sur une autre vidéo, c'est les boîtiers que tu mets sur que tu branches sur ton véhicule mobile pour décupler. Alors soit c'est le boost, le couple de chevaux, l'économie de l'essence pour que tout ce qui est électronique dans ta voiture s'améliore et s'adapte vraiment à ce que tu fais avec. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le EcoDB et le NitroDB qui coûtait 3-4 €. Ça sentait l'arnaque parce que c'est pour 4 € tu économisais 20% d'essence et compagnie sur ton véhicule. Mais après sur la vidéo en question, donc le Powerbox 3, c'était exactement le même type de boîtier, c'était un packaging différent. Ça, il te le vendait à, enfin quand je dis il, c'est la marque, hein, il te le vendait à 160 et quelques € avec réduction et te promettait la même chose avec les deux anciens boîtiers que je t'ai dit réunis. Et lui, il te fait le test et il te dit, voilà, pour 160 €, vous avez acheté un gadget qui fait des lumières de sapin de Noël. C'est tout ce que vous avez.
C'est déjà pas mal.
Voilà. Mais et il te démontre par A plus B pourquoi. Il te démontre l'objet, il fait les tests, il te dit, regarde, voilà, etc. Et tu comprends, même si t'es pas du tout, moi, j'ai pas de voiture, je sais pas, entre guillemets, comment ça fonctionne, hein. Je peux dépanner des choses, mais j'ai pas de connaissances au niveau d'une voiture, vu que j'en ai pas. J'ai tout compris ce qu'il a expliqué dans sa vidéo. Je suis pas la cible de l'arnaque, mais voilà.
C'est pas une chaîne d'intérêt général. C'est parce qu'il y a une vidéo, parce que par exemple, les fameuses imprimantes, pourquoi les imprimantes sont programmées pour tomber en panne facilement. Enfin, il y a plein de sujets intéressants et, on comprend pas forcément tout, mais c'est vraiment la façon dont il présente et le fait que sa vidéo soit pas dans le spectacle, c'est vraiment pas mal.
Je t'avouerai que j'ai découvert sa chaîne, c'est l'époque où il avait tenté de réparer un jeu vidéo Game & Watch de Nintendo.
Ah, effectivement. Il y a des vidéos un peu plus fun, effectivement, où il répare il démonte des consoles. Enfin, c'est vraiment super intéressant.
Donc de temps en temps, je regarde. Ouais.
Alors que Dom est tombé sur la chaîne parce qu'il cherchait à la base le jeu Deus Ex. C'est ça.
Voilà. Il cherchait à avoir juste les vidéos sur YouTube d'un air de dire comme ça, j'ai pas besoin d'y jouer. Mais non, il est tombé sur autre chose.
Alors que j'y jouerais en fait.
Si vous cherchez des vidéos un peu plus instructives que Man Eating Food, n'hésitez pas. Deus Ex, Silicium. Oh, quoi que tu peux alterner l'une et l'autre. Tu vois, après avoir comme ça appris tellement et à essayer de retenir comment démonter ses objets.
Il y a une vidéo qui va peut-être t'intéresser. Il a fait une enchère, il a remporté tout un lot de vieux ordinateurs aux enchères. Il y a de l'Atari, il y a de l'Amiga dedans. Je l'ai pas encore regardé celle-là, mais c'est la prochaine que je vais regarder, je crois.
Vendu. Écoute, ça m'évitera de démonter mon propre Amiga. Ou tu peux le faire en même temps, éventuellement, pour
Exactement.
Restaurer certaines pièces. Pas mal. Alors, on parlait de certains gadgets qui étaient de l'arnaque. Alors là, c'est pas vraiment de l'arnaque, mais c'est une news que j'ai vue récemment. Il faut faire attention, puisque beaucoup de gens se sont équipés de caméras de sécurité domestiques pour, alors pas forcément... éviter d'être cambriolé, mais au moins pouvoir voir qui vous cambriole, hein, c'est l'efficacité, elle est plus là.
Et ce qui se passe chez toi pendant que t'es au travail, etc. Maintenant qu'on a fait du télétravail pendant des semaines, maintenant c'est l'inverse. Les gens vont retourner au travail, mais ils vont utiliser des caméras pour regarder ce qui se passe chez eux.
je fais une visioconférence avec chien
toi-même.
À la maison.
Ouais.
Et en gros, on s'est aperçu que la majorité de ces caméras, envoie le flux vidéo en Wi-Fi. Sauf que la caméra n'enverra le flux que quand elle fonctionne, donc que lorsqu'elle a détecté un mouvement. Mais pour le peu que vous avez cherché un peu sur Internet comment fonctionne le Wi-Fi, vous pouvez très bien, avec un ordinateur portable, commencer à voir un peu le transfert des paquets sur un réseau, sans même les pirater. Hein. Vous pouvez voir, tiens, là, il y a un gros trafic sur ce réseau Wi-Fi. Du coup, les gens sont capables de dire... quand la caméra s'allume, c'est que les gens sont à la maison. Donc, ils arrivent à déterminer, rien que par le trafic Wi-Fi, à savoir les heures de présence des personnes. Donc, potentiellement, ça peut les aider à savoir quand est-ce qu'il faut aller chez vous.
Exactement.
Quand est-ce qu'ils peuvent faire une vidéo tranquille dans votre domicile.
Après, ce qui se passe, c'est que, comme on fait souvent, quand tu pars en vacances, il y a aussi des, il existe des systèmes qui font de la simulation de présence. C'est-à-dire qu'ils allument, tu programmes pour que, même si tu es parti en vacances 15 jours, qui tous les jours à des heures précises, par exemple, ou un petit peu aléatoires, allument certains appareils ou font allument la télé, etc., pour faire croire qu'il y a des gens chez toi. À la limite, tu peux faire ça aussi.
Comme dans Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça? Il y a des trucs qui bougent sur un train.
Ça, c'est de la référence.
Ouais, mais là, en utilisant un peu de domotique, ce serait un peu mieux que mettre des films en fond d'écran avec des silhouettes derrière les fenêtres, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir à quel point les cambrioleurs, les malfaiteurs s'adaptent aux nouvelles technologies, eux aussi.
Je sens que ça va encore défrayer les chroniques, tout ça.
C'est très bien. Ouais, y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, là-dedans. Hein.
Ça me fait penser à des, bah, même sans aller dans les trucs, quand tu passes dans la rue des fois, puis quand, si tu achètes acheter une nouvelle grande télé, voilà, tu claques ta paye dans un écran géant, etc. Il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils installent, ils achètent, ils se font livrer, et ils se font livrer, ils installent. Et le carton, qu'est-ce que t'en fais? Bah, tu le mets devant ta maison pour que les poubelles puissent ça passe aux poubelles le lendemain. Donc, il suffit de passer dans la rue, tu repères toutes les maisons où t'as des cartons comme ça, et tu sais que la personne vient d'acheter une grande télé. Donc, hop, tu peux l'ajouter à ta cible des maisons à visiter. Ça m'a toujours étonné de la naïveté des gens qui croient qu'on va pas comprendre. Enfin, qui montrent, regardez, venez chez moi, j'ai une nouvelle télé.
Ou tu es plus intelligent, tu mets le carton chez le voisin, comme ça, ça fait moins de pollution devant chez toi.
Ou tu mets un carton d'un truc un peu pourri, c'est pas la mode.
Et donc, autrement dit, tu te balades dans les rues de ta ville en début de mois pour commencer à faire un petit setlist de dire bon, faut que j'aille là.
Mais ça pose une bonne question. Maintenant, Amazon vous livre vos produits chez vous. Qu'est-ce qui coûterait Amazon de dire bah voilà, vous avez, j'attends 3 minutes, déballez votre truc, filez-moi le carton et moi je pars avec et je le recycle proprement.
Il se passe quoi que ce soit, t'as besoin du carton pour le renvoyer.
Oui, enfin, puis ça prend du temps, tu vas pas forcément l'installer sur le moment. Mais effectivement, ou alors, où tu vas faire un vrai, on va pas citer de marque, mais qui vient chez toi installer le matériel et qui repart avec ton ancien matériel en plus, si tu le reprends. Donc, il y a des magasins qui font ça, on va pas les citer, mais c'est un peu plus écologique. Et puis c'est pas Amazon.
Allez, je vous propose de continuer un peu ces clins d'œil qu'on fait sur d'autres émissions. Alors, cette fois-ci, on peut parler de Radio Campus. Ils nous ont fait un petit plaisir cette semaine puisqu'ils ont passé un peu de musique de jeux vidéo. Donc, on va leur renvoyer l'appareil. N'hésitez pas. Donc, l'émission s'appelle Crise en thème. C'est une émission principalement musicale et qui nous propose, alors ça se passe...
Tous les mardis de 23h à minuit, c'est animé par René Sakaf qui font déjà une autre émission sur Radio Campus et Radio Boomerang, 3 cordes et un cerveau.
Et dans cette dernière émission de Crise en thème, il y a eu plusieurs musiques hein, en passant... Enfin, forcément dans le jeu vidéo par GTA Mario avec quelques petites infos à la clé.
Et ils reprennent un peu le principe de ce qu'on fait de temps en temps, nous c'est le back to back, c'est que chaque semaine il y a un thème différent. Ils ont fait le feu, ils ont fait la folie, enfin à chaque fois il y a un thème. Alors j'ai pas encore le thème de mardi prochain, mais si on les suit sur leur Facebook Crise en thème, c'est très facile, ils annoncent le sujet à l'avance. On peut même faire des suggestions.
Voilà, on va lancer un appel au thème de back to back bientôt. Donc suivez-nous hein, Facebook, Instagram, heureusement en France. Voilà, il y a de quoi faire. Est-ce qu'il y a d'autres petites émissions que vous vouliez citer?
Absolument, une émission qui passe le dimanche sur Radio Campus, hein, c'est très original. Sauf que eux, c'est à 10h du matin. Moi, je l'ai déjà écouté, hein, mais il y en a que je sais qu'ils ne se lèvent pas avant tard le dimanche. Donc,
ah non, mais même, le dimanche 14h du matin reste 14h du matin, hein, ça reste le matin.
C'est une émission qui s'appelle Twitch Café, qui a en plus la particularité, comme son nom l'indique, d'être en direct sur Twitch. C'est-à-dire que vous pouvez vous brancher sur le Twitch de Viking, qui est l'animateur, et vous pouvez assister à l'émission à la radio, mais aussi sur votre navigateur, et vous pouvez même voir les studios de Radio Campus en direct. Alors, il parle de Twitch, il parle de jeux en ligne, etc., de plein de sujets, et aussi de jeux vidéo, bien sûr. Il passe aussi des musiques tirées de jeux vidéo. Et dimanche dernier, il y avait un débat, il avait des invités qui, ils ont parlé de e-sport pendant une heure, c'était passionnant. Il y avait des joueurs d'e-sport, des joueurs professionnels, coachs, etc. Et c'était passionnant. Donc, à chaque semaine, c'est un sujet différent également. Donc, à suivre tous les dimanches de 10h à 11h sur Radio Campus et en direct sur Twitch.
Et d'ailleurs, on pourra faire prochainement un sujet sur le e-sport également, puisqu'il y a des associations qui se créent à Lille en ce moment.
Ça bouge pas mal.
Donc, on fait un appel à l'invité, hein. Si vous êtes membre d'une association de e-sport et que vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous contacter dans les différents réseaux sociaux de Heureusement en France. Alors, on parlait de Twitch. C'est vrai que je sais que toi, Rénal, par exemple, tu es sur Twitch depuis quand même plusieurs années.
Mmh.
Et moi, j'ai découvert Twitch il y a à peine un mois, dans le sens où j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à comprendre c'était quoi ce bouton abonné, tout ça grâce à Corben. Je lui fais un peu de pub de par ailleurs, parce qu'on utilise quand même plusieurs de ses news de temps en temps. Et j'ai même testé de streamer mon propre Twitch. Mais complètement du jour au lendemain, j'ai choisi un jeu où je me dis qu'il allait avoir beaucoup d'action. J'ai choisi Planet Coaster, donc un jeu de une sorte de Sim City de parc d'attractions. C'est pas forcément le meilleur format, mais je trouve ça assez sympathique.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont suivi?
Bah forcément, j'ai pas eu grand monde, mais j'ai eu 6 mecs qui regardaient, dont mon cousin, et je pense que Rénal m'a envoyé des insultes par texto. Donc je pense que tu es tombé dessus, je ne sais même pas comment.
On va dire qu'il y a une discussion commune où on a eu une photo de la télé d'un cousin à toi dont je nommerai pas, qui a envoyé
une source proche du dossier. Voilà,
j'allais dire où j'ai seulement dit que bah il te manquait un petit décolleté pour avoir un plus de subs, et le sub étant les personnes qui donnent un petit peu d'argent, qui vont la moitié à Twitch et la moitié au streamer pour l'aider à continuer à faire son activité.
Alors les abonnements Twitch sont quand même à 4, c'est quoi, 4,50€? Mais quand tu payes 4,50€, c'est juste pour une chaîne, c'est ça?
Ouais, ouais, tu t'abonnes à la chaîne en question, ça te permet d'avoir des... quand tu utilises le chat du streamer, d'avoir des petites émoticônes en plus, d'avoir des accès un peu anticipés, mais par exemple pour les vidéos qu'il met en ligne juste après.
Avec une particularité, c'est que Twitch et Amazon sont liés. Enfin, je dis bête, Twitch appartient à Amazon, j'imagine maintenant que je joue comme ça.
Voilà,
donc, si vous avez un abonnement Amazon Prime, qui vous sert à rien, hein, si vous êtes intelligent, vous pouvez utiliser à regarder des séries sur Amazon Prime, etc. Vous pouvez utiliser cet abonnement Amazon Prime pour aider des Twitchers.
Alors,
on a le droit à un par mois, effectivement.
Je trouve que tu es méchant, et j'en profite parce que après nous il y a l'écho des gnous, donc on en profite toujours en fin d'émission de parler de l'inverse du logiciel libre et des sociétés.
Le logiciel prison.
Mais pour le coup, Amazon, Dominique, tu as quand même, à la base, ce n'était que pour les livraisons. Moi, j'avais pris l'abonnement juste pour avoir des livraisons rapides. Bon, forcément, c'est un peu plus long en ce moment, mais de là, ils ont ajouté un service vidéo, alors que les gens ont continué à payer le même prix sans rien demander. Ensuite, un service audio, puisque maintenant, vous pouvez écouter également de la musique. Demain, je vais avoir
tu
un
n'as
autre...
Tu n'as pas encore l'assistant personnel chez toi?
Non, faut pas exagérer. J'ai pas envie de me retrouver avec des commandes. Non, je suis pas fan de l'assistant personnel, bizarrement. Est-ce que vous avez un assistant personnel à la maison?
Non.
Est-ce que vous utilisez l'assistant personnel de votre téléphone?
De temps en temps pour m'amuser. Mais c'est tout. Mais pas sérieusement, non.
Uniquement pour envoyer des messages vocaux quand je peux pas envoyer des messages quand je suis en train de marcher ou un truc comme ça. Quoi.
Voilà, quand t'es en train de marcher et puis c'est l'hiver et t'as tes gants, t'as pas envie de les enlever, donc
La grande question, c'est pourquoi est-ce que vous l'utilisez pas? Parce que vous sentez une sorte d'intrusion dans l'intimité ou...
Bah non. Après, je t'avouerai, moi j'ai connu les téléphones portables à clapet ou les premiers qui ont semblé des gros de Marseille tellement que tu penchais à droite ou à gauche, selon. Et donc j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Après,
en plus, c'est un peu utiliser ton clavier, ton ordinateur. Moi, je vais plus vite à taper des recherches au clavier qu'à le dire souvent. Ouais. J'ai pas le réflexe. Question d'habitude.
Bah, moi, je vais vous le dire. Moi, si j'ai pas d'assistant personnel à la maison, c'est parce que j'ai pas envie d'avoir un appareil qui écoute en constant.
Mais t'as pas besoin de ça. Hein. C'était que t'as une télé intelligente ou même un téléphone, quoi que ce soit, tu peux avoir des appareils qui t'espionnent ou des caméras. Et je voulais revenir sur Twitch aussi, il y a quelque chose de particulier, notamment avec l'émission du dimanche matin sur Campus comme il est en direct et qu'on est sur Twitch, l'une des particularités de Twitch, c'est que tu peux interagir en tant que public, tu peux poser des questions, tu peux réagir, tu peux parler avec les autres. C'est pas juste un streaming de vidéos, c'est aussi un canal de discussion intéressant. Et là, pour une émission, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que justement, on peut poser des questions, réagir et faire des propositions et vraiment participer sans être obligé d'appeler à la radio ou d'envoyer des mails ou de parler sur Facebook.
Et c'est là que l'abonnement devient important parce que tout le monde peut regarder un Twitch, y compris des bots. Hein. Ça, on en parlera peut-être plus en détail. Mais du coup, ça, lorsque vous avez trop d'abonnés, vous ne pouvez plus suivre les conversations. Et cette interaction avec les utilisateurs est vraiment quelque chose d'essentiel dans le Twitch. Parce que c'est ça qui fait que les gens qui regardent se sentent un peu comme présents dans ce live, et ça permet aussi à la personne qui fait d'avoir un peu un jugement de ce que les gens pensent, est-ce que c'est bien ou non. Et du coup, il y a une restriction du chat qui est fait seulement pour les abonnés, donc seulement pour ceux qui ont payé les 4,50€, et de là, ils peuvent communiquer avec leur personne. Et je vois, il y a des joueurs, on prend le joueur du grenier, qui reste une icône du jeu vidéo. Lui, il lance un Twitch, 10 minutes plus tard, il y a 2000 personnes qui sont en train de regarder simultanément. Donc forcément, tu peux pas lire 2000 messages au bout d'un moment. C'est ce que fait par exemple Facebook ou YouTube, où on peut discuter en live, mais tu n'as jamais aucune communication qui est vraiment pour prendre la valeur, tellement c'est noyé dans un flux de messages, quoi.
Après, tu as aussi le côté où d'abord, au niveau de ton chat Twitch, tu peux mettre en place un slow mode, comme on les appelle, qui ralentit l'affichage des messages rentrant dans ton chat pour que toi, t'aies déjà un peu plus le temps de les repérer. Par contre, comme tu dis, si t'as une communauté avec 2000, 3000 ou même 1 million de personnes qui te suivent, forcément, en plus de ton activité, tu peux pas lire tout ce qui se passe dans le chat. Et là, tu peux mettre un sub only. Donc que les personnes qui se sont abonnées à ta chaîne, pour aussi faciliter le travail des modérateurs. Parce que tu es obligé d'en avoir pour éviter tout ce qui est les personnes qui viennent te troller, pas forcément que ça, mais aussi mettre des liens un peu bizarres que les bots ne peuvent pas tout gérer. Donc tu es obligé d'avoir ce sub-only pour les grosses communautés.
Je vous propose, parce que pour l'instant, nous ne sommes toujours pas dans les studios de Radio Campus. Alors là, vous l'avez pu deviner avec la qualité audio, nous faisons un peu encore ça en télé-émission. Mais je vous propose, dès notre retour dans les studios, de lancer un Twitch.
Ouais, challenge accepted.
On va se quitter avec une chanson de Fallout 4 qui est présente sur la soundtrack et qui fait partie de la radio de Diamond City. On va s'écouter Wonderful Guy de Tex Bennett. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao.
À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
I'm as corny as Kansas in August. I'm as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I am in a conventional dither with a conventional star in my eye. And you will note there's a lump in my throat when I speak of that wonderful guy. I'm as trident, as gay as a daisy in May, a cliché coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful guy. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I'm as trident, as gay as a daisy in May, a cliché coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use.